Si l'actualité de la rentrée proprement dite, la concurrence entre les principaux éditeurs via leurs auteurs, trouve son dénouement en ce moment avec l'attribution des prix littéraires, qui confirme par exemple la tendance des liens entre littérature et histoire, d'autres aspects de cette vie littéraire se font jour et l'on peut déjà tenter d'en tirer un petit bilan ou un premier bilan. Par exemple, et comme le soulignait Éric Loret dans un récent article du Monde des Livres, c'est l'année des livres énormes, alors qu'il nous faut d'abord attendre l'été pour lire ces blocs qui affichent au poids la densité de leur intrigue, c'est dès septembre que nous sommes confrontés à ces monuments de lecture et qui plus est de la part d'écrivains autres que ceux de la brochette traditionnelle. Par exemple, Kong, le roman que consacre Michel Lebris au grand singe du cinéma et à la création de celui-ci, l'histoire de sa création, eh bien ce roman dépasse les 900 pages. Philippe Génada, qui vient de recevoir le prix Femina, inaugure, lui, la double détente de l'auto-fiction et de la biographie ou de l'autobiographie et de la biographie en racontant comment il enquête sur la personnalité de Georges Arnaud et il en a besoin pour ça de 648 pages. Nous n'évoquons même pas le dossier M dont les 800 et quelques pages sont arrivées en septembre et dont on annonce un deuxième tome aux alentours de 900 pour janvier. Les Américains également nous ont habitués à cette production, on ne s'étonnera donc pas des 742 pages de John Safran Sphere avec Me Voici, mais nous sommes encore ici aux marges du raisonnable. La Jérusalem de papier d'Alan Moore, dont la plupart de vos journaux rapportent l'existence, propose 1264 pages. Alors évidemment, Jérusalem, c'est une cité céleste, elle mérite bien un moellon fondateur, mais il ne s'agit pas de Jérusalem dans ce roman, il s'agit de Northampton et même encore du quartier de Spring. Springborough, un quartier ouvrier, et ce projet, bien entendu, traite de la vie de ce quartier. De même que le projet très architecturé, lui aussi, de Yuri Zleskin, avec La Maison Éternelle, la saga de la Révolution russe, nous dit le sous-titre d'ailleurs, racontée à travers le destin de ceux qui la mirent en œuvre et de leur regroupement au sein d'une sorte de cité radieuse du communisme, mais, alors on ne dira pas cité céleste, en l'occurrence construite sur les bords de la Moscova et qui contient l'essentiel des 2550 membres de la nomenclatura et de leur famille dans 550 appartements, dont par exemple celui de la famille Staline. Évidemment, ces romans sont impressionnants et dans l'ordre, il s'agit de romans publiés par Grasset, Julliard, Un culte, L'Olivier et La Découverte. C'est aussi l'année de l'Algérie. Si on veut parler de la littérature hors les murs, la mémoire de la guerre, bien entendu, mais l'Algérie dans toutes ses composantes, serait-on tenté de dire, bien entendu. L'année a commencé avec Alice Zeniter et sa généalogie réelle et fictive des Harkis, et avec L'Art de perdre, pardon, qui nous a conduit jusqu'au prix du monde et qui a conduit surtout son auteur jusqu'au prix du monde des livres, suivi par Brigitte Giraud et Jean-Marie Robles qui interrogent la guerre de leur père, puisqu'évidemment, maintenant, nous sommes dans une génération un peu décalée. L'un est un appelé infirmier, l'autre un pied noir qui va se battre des deux côtés de la Méditerranée. Et l'un comme l'autre cherche à résister aux clichés, là je parle des auteurs, bien entendu, et aux différentes pressions dont ils sont l'objet. Enfin, il y a les auteurs algériens eux-mêmes qui déjouent l'attente habituelle de la littérature algérienne, avec Kamel Daoud, bien entendu, avec Zabor ou les psaumes, une littérature créatrice qui est convoquée à travers la référence renouvelée aux mille et une nuits, mais pas du tout sous l'angle de la référence, tandis que Kaouter Adimi raconte la vie d'Edmond Charlot, premier éditeur à Alger de l'œuvre d'Albert Camus. Sa librairie maison d'édition Les Vraies Richesses fait partie de l'histoire de l'édition, et de l'édition française bien entendu, dans ce qu'elle a eu de plus engagé au sens de la défense de la vie des lettres. Kaouter Adimi en rappelle les principaux axes, librairie, bibliothèque de prêt et galerie à la fois. Et nous dit Virginie Bloch, l'aînée dans Libération, Edmond Charlot est, je cite, « un homme bon, modeste et courageux ». Elle raconte aussi comment, en octobre 1943, il réimprime clandestinement Le silence de la mer de Vercors à la suite des éditions de Minuit et à la demande de la résistance. Mais le papier vient à manquer et il le publiera sur des feuilles multicolores. Kaouter Adimi fait revivre dans Nos richesses, on appréciera ce possessif pluriel, cette figure, mais aussi, comme Kamel Daoud, le goût pour la langue et la culture, non pas la langue et la culture française, mais la langue et la culture commune à une francophonie désormais plus horizontale que verticale et qui ne prend plus ses ordres à Paris. Enfin, pour terminer sur un clin d'œil, signalons qu'il existe une vie littéraire aussi après les prix, puisque le mois d'octobre a vu publier légèrement en post-rentrée, mais dans le calendrier de l'attribution des Nobel, un roman de J.M.G. Le Clézio, Alma, qui semble avoir surpris les critiques par la continuité de son engagement humaniste et, je dirais peut-être même par l'affirmation un peu plus dense de celui-ci, et deux textes de Modiano, dont Souvenir dormant, c'est presque un titre autoparodique, qui lui aussi constitue une bonne surprise de cette rentrée, qui n'a pas encore livré tous ses enseignements.